France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Élodie Bouchez à 19h40. Affaires critiques, Lucille Comeau nous parlera du film Knock at the Cabin de M. Night Shyamalan. À 19h45, Affaires en cours par Marie Sorbier, focus sur un théâtre de création qui vient de faire peau neuve. Vincent Baudrier, directeur du théâtre Vidi Lausanne, nous racontera les enjeux artistiques de cette fabrique de théâtre. 19h50, Affaires à suivre. Direction l'Inde avec notre correspondant Sébastien Farcy. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Félix Delacour et Étienne Rouche à la prise de son. Bonsoir Élodie Bouchez.
Bonsoir.
Vous serez mercredi à l'affiche du film de Guillaume Gouix, Amore Mio, aux côtés d'Alison Paradis et du jeune, formidable aussi, Vigo Ferreira-Rodier. On en parlera bien sûr, mais comme chaque soir, on va profiter de cette belle occasion de vous accueillir ce soir pour essayer de faire le portrait de l'artiste que vous êtes, en s'arrêtant sur quelques moments importants de votre parcours et en essayant de connaître un peu vos méthodes de travail. Alors, vous concernant, Élodie Bouchez, vous l'avez souvent dit, rien ne vous prédestinait à intégrer le monde du spectacle ou du cinéma, mais l'envie remonte loin. Il paraît que dès que vous en aviez l'occasion, en fait, de famille, en fait, de fin d'année de l'école de Vitry-sur-Seine ou de Choisy-le-Roi ou en colo, dès que vous pouviez, vous vous mettiez en scène. Est-ce que vous croyez à la vocation ?
Oui, je crois vraiment. Parce que quand on est si jeune et qu'on a déjà si fort ce désir, dans mon cas, de représentation, d'amuser les gens, de créer des décors, de monter sur les tables et de danser, on l'a, je pense, profondément en soi. À partir de quel moment, je ne sais pas, mais on l'a, oui.
Vous avez trouvé une minuscule porte d'entrée vers ce monde qui vous attirait à 13 ans, intégrant l'école de danse Sylvie Vartan.
Oui.
Plus tard, vous passerez un bac à 3 philo, option théâtre, des études théâtrales à Nanterre. Entre-temps, vous avez tourné devant la caméra de Serge Gainsbourg dans Stan de Flasher. Il paraît qu'il avait envie de faire de vous une chanteuse, mais que vous ne le sentiez pas. Il faut quand même une sacrée force de caractère et savoir ce qu'on veut pour dire non à Gainsbourg.
Oui, c'est vrai. Enfin, je dis c'est vrai aujourd'hui parce que je crois juste que bon, déjà, sans fausse modestie aucune, vraiment, je ne chantais pas bien du tout. Non pas que je chante mieux maintenant, mais j'ai appris à apprivoiser, enfin, j'essaye d'apprivoiser ma voix. Mais c'est pas encore ça. Mais voilà, rien, j'avais pas du tout envie de chanter, je savais pas chanter et on me disait depuis longtemps que je ne chantais pas bien, même justement au cours de piano, il y avait aussi une chorale et puis moi on me mettait toujours au fond et puis on finissait par me dire tu fais du playback, c'est pas la peine même d'essayer, juste tu mimes. Donc je suis arrivée avec tout ça concernant le chant et quand il m'a proposé de le faire, déjà c'était formidable pour moi de faire ce film qui était mon premier film en plus avec lui et j'en demandais pas tant en fait. Après si j'avais eu l'âge que j'ai aujourd'hui, si j'avais reçu de lui cette proposition, j'y serais allée, évidemment.
Mais pour autant, vous avez bien fait, puisque très vite, ça va être Les Roseaux Sauvages, André Téchiné, qui vous vaut le César de meilleur espoir féminin. 4 ans plus tard, Éric Zonka vous dirige avec Natacha Régnier dans Le Navire rêvé des anges, double prix d'interprétation féminine à Cannes, puis César de la meilleure actrice pour vous, et du meilleur espoir féminin pour Natacha Régnier. Des beaux films entre les deux, des beaux films depuis, on va revenir au cinéma tout à l'heure, mais pour rester quand même sur la danse. Je vais vous faire écouter une première voix, celle de la chorégraphe Pina Bausch. C'était dans Tout arrive sur France Culture en 2003.
For me, it's very difficult to explain because a part of my work is also that I think that the
images. Il m'est difficile d'expliquer parce que une partie de mon travail est précisément de penser que les images sur scène sont très ouvertes pour que tout le monde soit libre de croire en ce qu'il perçoit.
Tell you what I feel, or it's already like I would ask you to see what I want you to see.
Si je vous disais ce que je ressens, ce serait déjà vous demander de voir ce que je veux que vous y voyez.
The dances or whatsoever, and I think each one should trust their own feeling and what comes to your heart.
Il y a ce qu'il y a, des images, des danseurs. À chacun de croire dans ses propres perceptions, ce qui vous vient à l'esprit, au cœur.
I don't want to make tell you what to think or what to feel.
Je ne veux pas vous dire quoi penser, quoi ressentir. Pour moi, c'est très important. Vous faites partie de la pièce, d'une certaine manière.
Quelle place occupe Pina Bausch dans votre panthéon, Élodie Bouchez?
Je suis très heureuse d'entendre ces mots là parce que. Enfin, bien sûr, Pina Bausch, on est vraiment beaucoup à l'aimer, à l'admirer, elle nous inspire. Et quand je l'entends dire ces mots que je n'avais jamais entendus, même si j'ai lu certaines choses qu'elle a pu relater, je comprends encore mieux la connexion réelle avec... avec elle et l'état dans lequel me mettent ses danseurs et ses spectacles. Parce que moi, je crois complètement au jaillissement. Je ne sais pas si c'est un mot correct, mais je crois que... Alors, est-ce que c'est parce que je n'ai pas vraiment fait d'école de théâtre et je n'ai pas une véritable technique que je me suis fait la mienne et que la mienne, elle réside justement dans une certaine forme d'happening et de jaillissement comme ça. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'elle raconte là. Et moi, je ne crois qu'en ça, à la magie de quelque chose qui jaillit sous nos yeux de spectateurs.
Est-ce que vous avez continué à pratiquer la danse depuis l'école Sylvie Vartan?
Oui, toujours.
Toujours?
Toujours.
Ça occupe quelle place?
Ça occupe une très grande place. Je suis... J'ai jamais été une bonne danseuse. Je suis une vieille danseuse maintenant avec un manque réel de technique et beaucoup de lacunes. Mais je continue le travail, je continue la recherche, je continue à explorer tous ces endroits du corps. Et la danse, c'est un endroit, c'est un refuge. Je vais à la danse chaque jour quand je ne suis pas occupée à travailler. Et voilà, je travaille avec des professeurs formidables. Qui m'apporte beaucoup. Et puis j'aime l'apprentissage, en fait. J'aime la transmission. Et j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour ces professeurs de talent. Enfin, c'est vraiment la tradition du maître à laquelle j'adhère totalement.
Spectacle vivant encore, mais autrement encore que faire de la danse nourrit certainement la façon d'être sur scène. On va parler de théâtre. J'ai eu la chance de vous voir dans les trois mises en scène signées Emmanuel de Marcimota, Casimir et Caroline, Victor, les enfants du pouvoir et les sorcières de Salem. Avant cela, c'était Sylvie Testu qui vous avait fait débuter sur les planches dans sa pièce Gamine. On va écouter une autre voix, celle d'Emmanuel de Marcimota dans la scène imaginaire que j'ai animée le mois dernier sur France Culture.
Les personnages restent alors que la vie, on en a une et elle passe. Ce qui est différent, c'est que le personnage peut mentir pour toujours. Nous, on peut mentir pendant un temps. qui est déterminée et une durée sur laquelle nous pouvons agir. C'est-à-dire la question du vivant. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'aime bien le théâtre. C'est-à-dire, c'est l'endroit du vivant. Et l'endroit de notre vie. C'est-à-dire, l'endroit où le spectateur, présent, par sa présence vivante, vivant et présent, comme l'acteur ou l'actrice vivante et présente dans l'instant qui nous réunit. Donc cet instant qui nous réunit, c'est une fiction que nous avons créée, l'espèce humaine, qui s'appelle le théâtre, c'est-à-dire en grec, le sens du mot qui veut dire l'endroit où nous nous retrouvons pour regarder quelque chose ensemble. Qu'est-ce que nous avons à regarder ensemble ? Donc c'est ce qu'on peut commencer à appeler le partage, en fait. Comment partager cet instant, y compris dans ce que chacune, chacun entendra différemment.
Alors vous êtes, Elodie Bouchèze, beaucoup et longuement investi dans ce théâtre de la ville, aux côtés d'Emmanuel Noarsimota, pour ses différents spectacles. De quelle nature était votre désir de théâtre ?
Ah, c'était mon premier désir, je crois. Puisque assez rapidement, j'ai compris que la danse, j'étais pas complètement formatée pour devenir une athlète de haut niveau comme les danseurs. Et le théâtre était pour moi l'endroit qui me semblait être un endroit pur de gestes artistiques et créatifs. Et j'envisageais même pas le cinéma parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, je n'avais aucune porte d'entrée dans ce monde, ça me paraissait très très loin. Et donc moi, je me suis toujours projetée enfant sur les planches. Et puis, il se trouve que c'est le cinéma qui m'a attrapée assez jeune et de manière fulgurante et que j'ai mis longtemps à arriver enfin au théâtre.
Qu'est-ce que ça vous a apporté à ce moment-là ?
Ben, j'ai pas regretté d'avoir attendu tout ce temps pour arriver dans les bras d'Emmanuel de Noarsimota, dans les bras de ce théâtre extraordinaire qu'est le Théâtre de la Ville à Paris, et dans les bras de cette troupe qui sont pour moi mes frères, mes sœurs, mes compagnons que j'adore. Et puis, cette porte ouverte du théâtre public, exigeant, un théâtre très physique avec Emmanuel. Et puis voilà, cette rencontre avec Emmanuel qui est folle. Moi, c'est un de mes maîtres. Je l'adore. C'est quelqu'un qui ne déconstruit jamais, en fait. C'est toujours en construction. On avance toujours avec lui. C'est formidable. Moi, j'ai envie de travailler toute ma vie avec lui et avec la troupe.
Le message, je crois, est déjà bien reçu. Le théâtre, c'est l'endroit du vivant, hein, disait dans ce court extrait Emmanuel de Noarsimota. Est-ce que la pratique théâtrale, ça a changé quelque chose pour vous quand vous êtes face à la caméra ?
Je sais pas. Je sais pas, j'ai parfois l'impression qu'il y a des petits fils qui se tissent entre l'un et l'autre. Mais ce que je sais, c'est que après un ou deux tournages, j'ai vraiment très envie de revenir au théâtre.
Alors, on le souhaite, en tout cas, vous revoir sur les planches, Elodie Bouchèze. Mais alors, on finit avec les autres arts. Un autre qui doit quand même être assez important, la musique. Alors, si vous n'êtes pas encore la chanteuse accomplie que vous allez bientôt être, ça occupe quelle place dans votre vie, la musique ? Est-ce que c'est souvent ? Est-ce que c'est il y a besoin d'écouter ?
Alors oui, moi j'ai vraiment grandi avec de la musique autour de moi, la musique populaire, Et puis, je suis pas du tout musicienne. Moi, j'ai une très mauvaise oreille. J'ai fait beaucoup d'années de piano sans pour autant jamais savoir jouer. Mais je vis avec un musicien et puis avec des enfants qui sont musiciens eux aussi, qui ont cette oreille-là et ce don-là. J'adore me réveiller en écoutant de la musique, mais les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Et chez moi, c'est très compliqué d'écouter de la musique parce qu'il y a des branchements, des fils, des trucs que je ne maîtrise pas. Donc, j'ai besoin de la musique, mais elle n'est pas toujours présente dans ma vie.
Bon, alors, on a branché tous les fils ce soir pour pouvoir en écouter ensemble. Alors, dire que l'été dernier a vu la création de la pièce chorégraphique dans Jean Préjocage Mythologie, dont la musique était signée Thomas Bangalter. On a pu voir d'ailleurs cet automne au Théâtre de la Ville de Paris cette pièce Mythologie qui va sortir. C'était au Châtelet.
Oui, mais c'était...
Programmation du Théâtre de la Ville, voilà, mais au Châtelet, oui. Mythologie, qui va sortir en disque début avril. Ça pourrait être l'occasion d'inviter Thomas Bangalter dans cette émission. Enfin, de le recevoir, inviter, ce sera fait, il faudra qu'il vienne. Un premier extrait de cet album sorti vendredi, L'Accouchement, nous l'écoutons.
Thank you.
Jusqu'au bout de l'archer, ce morceau mythologique est donc le premier extrait, le morceau d'accouchement, le premier extrait de l'album mythologique qui sortira en avril, signé Thomas Bangalter. Alors venons-en au cinéma, Élodie Bouchez, et puisque vous serez à l'affiche de Amore Mio mercredi dans les salles, filmographie très belle, très riche, très diverse, tout ce que j'aime, avec quelques noms qu'on peut aimer particulièrement, certains invités de cette émission, Yolande Zobermann, Eric Judor, Alex Lust, pour dire des noms assez différents, mais aussi Jean-Marc Barr, Olivier Dahan, Abdelatif Kechiche ou Laetitia Masson. Cette diversité, elle est évidemment, j'imagine qu'elle vous ressemble, mais qu'est-ce qui fait, vous, Élodie Bouchez, que vous acceptez un rôle ou pas ? Non, que vous acceptez ?
Que j'accepte ou pas, d'ailleurs, c'est l'écriture. C'est l'écriture qui me permet... En très peu de pages, de déceler quelque chose, quel que soit le genre du film. Et c'est quelque chose sur lequel je compte beaucoup l'écriture, parce que c'est comme... tout devient très facile, en fait, quand on nous confie un scénario qui est extrêmement bien écrit et un rôle et des situations et des dialogues qui le sont aussi. Tout devient facile, évident. C'est comme une danse, quelque chose d'organique qui est déjà là, présent au scénario.
Mais il faut quand même que ça se couple avec la rencontre de là du cinéaste, parce que l'écriture seule ne suffit pas. Il faut qu'il y ait quelque chose que vous sentiez.
Comme en France, nos réalisateurs sont la plupart du temps auteurs de leur propre histoire. On sent déjà très vite une patte, quelque chose qui va me plaire. Enfin, je vais sentir très vite quelque chose qui va me plaire. Et je suis jamais déçue en rencontrant par la suite, dans un second temps, le réalisateur ou la réalisatrice. Donc pour moi, la première chose, c'est l'écriture, et puis évidemment la rencontre, et puis aussi le choix de mes partenaires.
Puis vous avez réussi, ce qui n'est pas si évident, ne pas être enfermé dans une case, et parce que tout au long de ce qui est quand même une carrière impressionnante déjà, Élodie Bouchez, vous avez réussi à varier les registres, ce que je disais, c'est-à-dire effectivement des films dits d'auteurs, ce sont tous des auteurs, les cinéastes qui signent leur scénario, mais et d'autres beaucoup plus grand public. Ça correspondait à des envies à chaque fois, ou aussi la peur peut-être d'un enfermement ?
Non, jamais la peur. C'était juste instinctif. Alors que ce soit Brise de Nice ou les films underground de Jean-Marc Barr ou Pupille de Jeanne Herry, enfin, c'est à chaque fois quelque chose que je sens que je vais pouvoir attraper et que je vais pouvoir servir et qui va pouvoir me servir. Enfin, servir pas dans le mauvais sens du terme, hein, mais que je vais pouvoir alimenter, qui va m'inspirer. C'est aussi simple que ça.
Alors, pour prendre un exemple très concret, Amore Mio, qui sort donc mercredi, on va dire que c'est un road trip du deuil. Je ne divulgage pas trop parce qu'on va avoir dès les premières minutes du film la situation avec Lola qui vient de perdre son compagnon. Elle a un garçon, ils ont eu un garçon qui est encore très jeune à ce moment-là. Et Lola va convaincre Margot, sa sœur, de les emmener, elle et son fils, loin de l'enterrement. C'est Alison Paradis qui incarne Lola, vous Margot. Pour Amore Mio, alors, exemple concret, qu'est-ce que vous avez senti, compris à l'écriture, à la lecture, pardon, de ce scénario?
Quand Guillaume m'a d'abord appelé, il m'a dit, voilà, j'ai envie de te faire lire ce scénario que je vais réaliser, mon premier film avec Alison. C'est l'histoire de deux sœurs. J'ai lu et... Et j'ai tout de suite vu et lu dans cette écriture l'intention de Guillaume. Quand je l'ai rencontré, qu'on a pu en parler tous les deux, et que j'ai pu lui poser quelques questions sur la manière dont il avait envie d'aborder le tournage, la manière de travailler, j'ai vu que c'était exactement ce que j'avais lu, en fait. Qu'il était à la recherche de l'instant présent, qu'il aimait les accidents, les sorties de route, qu'il aimait qu'on respecte chaque mot, parce que rien n'est improvisé dans le film, mais malgré tout, il nous a laissé la possibilité d'improviser à l'intérieur des situations, à l'intérieur des sentiments, des émotions. Il nous a donné le droit de nous tromper. Et ça, c'est pas de l'improvisation, mais c'est une liberté folle qui crée de la magie.
On voit à l'écran. Qu'est-ce que vous avez, vous, élaboré quelque chose qui ressemblerait à une méthode pour vous approcher d'un personnage ? Est-ce qu'il y a une façon de faire pour vous, Élodie Mouchez ? Est-ce que vous lui faites sa biographie? Est-ce que oui?
Je me le demande encore. Non, c'est sûr que je me suis essayée parfois, enfin pas parfois, mais je me suis essayée à un moment à cette méthode qui consiste à tout savoir de son personnage, d'où il vient, qui sont ses parents, comment était son enfance et tout ça. Mais j'ai vu très vite, quand j'ai essayé de faire ça, que je n'y croyais pas un instant, en fait. Et que je commençais à élaborer quelque chose, et puis que très vite, mon esprit partait ailleurs. Et donc, je ne pouvais pas du tout compter là-dessus comme méthode, et ça ne me correspondait pas. Je crois que ma méthode... Je pense que je me mets en état, avant un tournage, les semaines ou les mois qui précèdent un tournage, quand je sais déjà le personnage que je vais interpréter, sans savoir du tout comment je vais l'interpréter, j'ai l'impression que j'ouvre les écoutilles et que je me mets des espèces de petites antennes et que je commence à absorber... inconsciemment et sans vraiment le savoir, des choses qui vont se déposer comme ça à l'intérieur de moi et qui vont construire, élaborer un personnage. Mais sans du tout que ce soit intellectualisé ou pensé ou réfléchi. Et puis après, comme on disait tout à l'heure... je laisse apparaître, je me laisse me surprendre quand on me le permet, mais ça arrive souvent. Et je laisse la magie du moment présent opérer.
Dans la construction d'un personnage, certaines interprètes disent l'importance du costume, au sens de les habits qu'on porte. C'est vrai que quand on rencontre Margot, il y a quelque chose d'assez raide. Oui. C'est important pour vous aussi ?
Oui, c'est-à-dire que moi j'aime travailler avec des gens talentueux à tous les endroits de la fabrication d'un film. Et c'est un poste, comme tous les autres, très important, les costumes. Et qu'on s'en rend compte surtout quand on ne nous propose rien qui raconte quelque chose, en fait. Et là, c'est vrai que sur ce personnage, dans le film de Guillaume, c'est quelqu'un qui commence le film de manière assez raide et austère, sévère aussi. Et ce qui est assez génial dans le film, et c'est ce que j'ai aussi beaucoup aimé avec ce personnage, c'est que elle s'ouvre petit à petit et on la découvre en tant que spectateur petit à petit et elle va se révéler dans la deuxième partie du film. Et on va la regarder et l'entendre dans cette deuxième partie.
Oui, il y a un arc narratif très important pour les deux personnages et même pour ce jeune garçon, interprété par Viggo Ferra-Rodier. Bon, c'est une question classique, mais quand même, tourner avec un enfant, ça, qu'est-ce que ça implique ?
Ça dépend des enfants.
Avec celui-ci, alors.
Celui-ci, c'était super. Guillaume et Alison l'avaient bien choisi. Guillaume l'a choisi parce que, comme il dit, c'était pas un petit singe savant. Il essayait pas de prouver quoi que ce soit ou d'être dans une forme de démonstration. Il était juste là. Donc, il réagissait à ce qui se passait autour de lui quand on tournait. Donc, il était raccord avec la méthode de Guillaume. Et donc, il l'a bien trouvé, il l'a bien choisi.
Alors, Guillaume Wicks, premier long métrage, mais c'est un comédien que l'on voit souvent, peut-être pas assez, mais est-ce que vous sentez une différence en étant dirigé par un comédien, en tant qu'interprète vous-même ?
Ben, dans le cas de Guillaume, c'est vrai que l'autre jour, je lui disais que parce qu'il est l'acteur qu'il est aussi, lui, c'est-à-dire, il me semble un acteur instinctif et ancré, lui aussi, dans le présent. Et je crois que, comme il sait lui-même, les conditions requises pour pouvoir se sentir bien comme acteur sur un plateau, je pense qui nous a offert ça, à nous les actrices de son film. Ou alors c'est qu'il est aussi, et ça j'en suis sûre, très doué comme réalisateur et directeur d'acteur, ça j'en doute pas non plus.
Vous avez le sentiment, vous-même Élodie Bouchez, d'apporter quoi sur le plateau, par rapport à quoi, à vos partenaires, quoi à votre metteur en scène ?
À mes partenaires, j'espère une écoute, une danse. J'espère recevoir la balle qu'ils m'envoient et puis leur renvoyer avec autant d'énergie. J'espère être une partenaire généreuse, parce que c'est ce que j'attends, moi aussi, des gens en face de moi.
Donner et recevoir, c'est aussi ce qu'on vit intensément sur un plateau de théâtre, un plateau de danse forcément, mais j'ai lu quelque part que vous aviez fait, alors faites-vous toujours du kung-fu ?
Non. Non, est-ce que j'ai fait du kung-fu ? Parce que j'ai fait tout un tas de trucs.
Des arts martiaux, quelque chose qui est dans l'écoute et la réponse d'une autre façon.
J'avais fait de la boxe il y a très longtemps, à l'initiative de Yolande Zoberman, justement. Et j'avais adoré ça. Mais du kung-fu, non, je ne me rappelle pas.
Des fois, du kung-fu. On lit des choses parfois un peu étranges. Comme on arrive presque au terme de cette émission, il faut dire que sur les années 2010, on était un peu en manque d'Élodie Bouchez. Ce qui est bien, c'est qu'en 2023, nous avons beaucoup d'Élodie Bouchez qui va arriver sur les écrans, dès ce mercredi avec Omor et Meio, mais d'autres films vont arriver. Ça correspond aussi à plus d'appétit de votre côté ?
Non. Vous savez, très honnêtement, les acteurs ont... Alors, peut-être certains décident parfois de faire des pauses et de prendre du recul. Bon. Mais nous, on fait des choix en fonction de ce qu'on nous propose. Et c'est des opportunités plus ou moins intéressantes qui se présentent. Et moi, j'essaye de faire que ce qui me plaît.
Vous avez raison. Alors. Donc maintenant, il y a des meilleures propositions qui sont venues ces derniers temps, qui ont fait qu'on va vous voir plus souvent.
Oui, je pense qu'il y a aussi eu un moment où on m'a associée très fort, et je peux le comprendre, avec l'image de la jeune fille, jeune femme que j'ai pu être, parce que j'ai été marquée par des films marquants. Et que la transition a été un peu sans doute compliquée pour les gens de m'imaginer peut-être dans des rôles de femmes et plus de jeunes femmes. Mais parfois, j'ai pu lire des choses où qui correspondait plus à la personne que j'étais devenue.
Bon, maintenant, c'est raccord, c'est donc raccord. Tout va bien. Je rappelle que vous serez donc mercredi à l'affiche du film de Guillaume Gouix, Amor et Mio, côté d'Alison Paradis et du jeune Vigo Ferreira Redier, et puis bien d'autres, évidemment. Merci beaucoup, Elodie Mouchez, d'avoir été notre invitée.
Ouais, merci beaucoup.
France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
C'est l'heure d'Affaires critiques. Bonsoir Lucille Comeau.
Bonsoir Arnaud.
Ce soir, vous nous parlez d'un film qui sortira ce mercredi en salle, Knock at the Cabin de M. Night Shyamalan.
Oui, M. Night Shyamalan, maître américain du film anxiogène d'auteur, le réalisateur du Sixième Sens, de Signe ou plus récemment de Split, signe là un huis clos très clos, peut-être un peu trop clos et pas assez tendu à mon goût. Alors tout se passe aux abords et surtout à l'intérieur d'un chalet au milieu d'une forêt. Vous savez, ce genre de maison que les familles américaines louent le temps d'un week-end pour se mettre au vert. En l'occurrence, cette famille, elle est constituée d'un couple, Eric et Andrew, interprétés respectivement par Jonathan Groff et Ben Aldridge, et de leur petite fille, Wen, qui a 7 ans. Alors, elle s'amuse dehors, elle chasse des sauterelles, lorsqu'un homme surgit, immense, une vraie armoire à glace, qui se penche auprès d'elle et lui propose d'une très douce voix d'être son ami et de conseiller à ses parents d'ouvrir la porte quand il sera temps. La petite se réfugie à l'intérieur, les deux pères s'inquiètent et là, toc, 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 on frappe à la porte. L'armoire à glace a été rejointe par un homme et deux femmes. Ils ont dans les mains des armes étranges. Ils sont fébriles, pas hostiles, mais déterminés. Et de fait, ils prétendent détenir l'avenir de l'humanité tout entière entre leurs mains pour la sauver. La famille choisie va devoir faire un terrible choix. Tout travaille dès lors à clore un dispositif, clore la maison, puisqu'il s'agit d'empêcher qui que ce soit de sortir, de téléphoner, d'avoir un quelconque accès à l'extérieur. Clore la discussion, puisque de celle que doit avoir la famille doit urgemment émerger une décision. Clore la forme même du film en lorgnant vers des formes très fermées, celle de la pièce de théâtre avec son unité de temps, de lieu et d'action. Celle aussi du conte, ce lieu de maison au milieu de la forêt rappelle le conte, le personnage de la petite fille face à cet immense homme ogresque aussi. Et puis le titre même, hein, Frappe à la porte, rappelle l'histoire notamment du grand méchant loup ou des trois petits cochons. Et puis, étant donné le substrat biblique de la chose, le film a aussi une forme de parabole, depuis les sauterelles du début, un grand fléau parmi les fléaux, jusqu'à la révélation finale que, évidemment, je ne vais pas dire.
C'est beau de votre part. Hein. Frappe à la porte, cabine, ça ne veut pas dire porte, ça veut dire chalet. Mais bon,
oui, c'est mais petite. Bon, non, frapper au chalet, c'est bizarre.
Oui, mais bon, non, mais c'est pas une cabine téléphonique non plus. Il faut quand même prévenir nos auditrices et auditeurs. Mais bon, on sent quelque chose vous a laissé sur votre faim. Mais quoi donc ?
Eh bien, justement, ce sont tous ces effets de clôture qui font de Knock at the Cabin un objet tout rond, tout plein, tout cohérent. C'est impeccable et donc assez satisfaisant, hein, d'une certaine manière. La mise en scène est tenue, c'est malin sans en faire des tonnes. Le petit caméo habituel de Shyamalan est là, qui va bien. Mais justement, tout ça rend l'objet un peu trop poli pour être vraiment angoissant. Tout attentif à la forme, on reste très à distance de ce qui se passe, alors même que le dilemme proposé à la famille devrait résonner en nous et appeler notre empathie. Évidemment, l'intérêt, c'est de se demander qu'est-ce qu'on ferait à leur place. On ne se pose pas vraiment cette question et la fable déroule ses péripéties de manière trop attendue pour qu'on s'inquiète. Le chalet censé être le lieu de concentration d'horreur, d'angoisse et de questionnements existentiels reste finalement pour le spectateur un lieu confortable où passer une heure et demie agréable. Alors on cherche ce qui dépasse, des saillies, des étrangetés. On les découvre à quelques endroits qui sont plus intéressants dans le film. D'abord, cette configuration homoparentale qui crée une certaine tension, puisque se pose vite la question chez Eric et Andrew d'un raid homophobe organisé par des fous de Dieu qui les renvoient eux-mêmes aux violences et aux discriminations qu'ils ont subies, eux, plus jeunes en tant qu'homosexuels. Ça donne lieu à des flashbacks assez convenus, mais qui sortent un petit temps le spectateur de la parabole et surtout, ça donne un peu de chair au personnage. Mais le plus intéressant, c'est l'acteur qui interprète le chef de la mission, là, cette fameuse armoire à glace. C'est Dave Bautista, un catcheur devenu acteur dans les années 2010, notamment dans les films de la franchise Marvel. Tout en retenu dans son immense corps, il concentre l'ambiguïté qui manque par ailleurs au film, notamment dans la séquence d'ouverture qui est vraiment la meilleure à mon avis. Quand il rencontre cette petite fille, là, la petite Wen, dans la forêt, leur conversation est rendue dans un champ contre champ de plus en plus proche sur leurs deux visages. Un tout petit visage juvénile d'un côté, un gros visage rond et buriné de l'autre. Là, il y a la promesse d'un dérangement, d'une inquiétude qui, hélas, ne dure pas.
Bon, nous on se demande avec Marie Sorbier quel est donc ce dilemme.
Ah bah oui, bah
sacrifice humain. Moi je mets une pièce sur sacrifice humain, on verra.
Allez-y.
On ira voir Knock at the Cabin de M. Night Shyamalan, qui sort donc ce mercredi dans les salles. Merci Lucille Comeau. deux salles, deux ambiances. Affaire en cours avec vous, Marie Sorbier, bonsoir.
Bonsoir, Arnaud.
Parce que là, nous, on va avec vous à un théâtre de création en Suisse romande.
Oui, on va se promener un peu, car le théâtre Vidi-Lausanne vient de faire peau neuve. Le seul théâtre du monde qui se trouve sur une plage a été construit pour l'exposition nationale suisse de 1964 par Max Biehl, œuvre majeure de l'architecte qui, à l'époque, révolutionnait la façon de concevoir un établissement culturel. Après plus de deux ans de travaux, Vidi vient d'ouvrir ses portes et devient une cité du théâtre international au bord de l'eau, avec ses quatre salles de représentation et une salle de répétition. Je suis allée rencontrer Vincent Baudrier pour qu'il nous raconte les enjeux artistiques et sociétaux du nouveau théâtre de Vidi. Vincent Baudrier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur du théâtre de Vidi-Lausanne, où nous nous trouvons. Quelle est la spécificité de ce théâtre ? Alors, nous sommes au bord d'un lac, en Suisse, romande, ce qui est déjà une particularité, mais artistiquement, quels sont les projets que souhaite défendre le théâtre de Vidi ?
Alors, effectivement, une des singularités du théâtre de Vidi, je crois que c'est un des seuls théâtres au monde qui est au bord d'une plage, avec un regard sur les Alpes françaises, sur le sud, au bord du Rhône, qui nous relie à la Méditerranée. Donc je crois que cette ouverture-là, elle donne une énergie particulière et elle résonne aussi avec cette ouverture au monde qu'on veut donner au théâtre de Vidi. L'ADN de Vidi, depuis toujours, est un théâtre de création. C'est un théâtre qui a été créé dans les années 60. Et depuis toujours, là, ça a été comme un centre dramatique de Lausanne et un lieu de création et de production de rayonnement international qu'il a été par mes prédécesseurs comme Mathias Langhoff et René Gonzalez. Avec toute l'équipe qui m'accompagne, avec qui on travaille ici, on a voulu continuer vraiment de défendre la création. Donc c'est un lieu d'abord de production, de création pour des projets spécifiques comme quand on produit Frank Karstorff qui crée Bajazé, on rassemble une distribution, ça répète ici, on construit le décor et puis après on tourne. Ou des artistes comme Christophe Honoré, ou des projets aussi internationaux comme Christophe Marthaler, dont on a produit un dernier spectacle, Aucune idée. Donc c'est vraiment un lieu de fabrique, un lieu où on accompagne aussi beaucoup la création romande, la moitié de la programmation sur des artistes romands, dont on donne des résidences de création, on coproduit ou on produit. Et après, les spectacles vont à l'étranger, comme François Grémaud, le Phèdre qui tourne partout a été produit à Avignon, mais aussi la suite de sa trilogie avec Gisèle, puis Carmen, qui va créer au mois de juin. Ce sont des projets qui vont ici. Donc il y a plusieurs artistes romands qui sont un peu à la maison à Vidi, toute une nouvelle génération d'artistes qui viennent. On garde cette ouverture au monde aussi, en permettant à des artistes qui viennent peut-être d'autres continents de pouvoir profiter des conditions de travail qu'offre un outil comme Vidi. Donc on a en ce moment la création de Rabia Mroué et Lina Majelani, deux artistes libanais basés à Berlin et qui ont répété un mois ici pour leur nouvelle création produite par le théâtre Artakat, ou Faustin Lignécoula de Kisangani qui répète son spectacle à Kisangani mais qui va le finaliser ici à Vidi au printemps.
Alors le milieu du spectacle vivant pense en ce moment son impact écologique. Est-ce que ce sont des questions qui vous importent et comment vous y répondez ici à Vidi ?
Alors je dirais plus que l'impact écologique, je dirais la question de la durabilité. Elle est au cœur de réflexion du développement du théâtre de Vidi. La durabilité qui relie à la fois la question écologique, les questions éthiques et les questions sociales et sur lesquelles on doit maintenant prendre ça en compte au moment de chaque décision. Donc à la fois elle est très présente sur les plateaux, parce qu'on a besoin d'imaginaire pour penser le futur. Je crois que les artistes ont une part importante. On dit que le théâtre est un art vivant, et je crois que la question du vivant, cette question de l'avenir, de la durabilité, c'est la question du vivant qui est essentielle. Donc le théâtre a un rôle essentiel dans cette question-là. Donc il y a participé à l'élargissement des imaginaires pour penser le futur, mais aussi changer nos pratiques. Donc on a développé avec l'Université de Lausanne un protocole d'introspection, entre guillemets, ou d'analyse de nos activités sur le plan de la durabilité, pour à la fois analyser nos pratiques et surtout imaginer des pratiques plus durables. Et ça va du restaurant du théâtre à la construction des décors, à la mobilité des projets.
Aux tournées, justement. Par exemple, Jérôme Bell a beaucoup interrogé cette idée de tournée.
Tout à fait. Donc on a lancé un projet aussi, que c'est les théâtres durables, point d'interrogation. Et pendant plus d'un an, on a discuté tous les 15 jours sur qu'est-ce que c'est que le théâtre durable, avec Jérôme Bell, avec Katie Mitchell, avec l'Université de Lausanne et Vidi, en particulier Caroline Barnot, directrice des projets artistiques. Et ensemble, on a essayé à la fois de dire comment on pouvait avoir une pratique plus durable, mais comment on pouvait aussi tenter des expériences. Je crois que pour changer les pratiques, il faut tenter des expériences. Donc on a imaginé un projet qui s'appelait Théâtre durable, point d'interrogation, avec une production de Katie Mitchell, une production de Jérôme Bell, qui vont voyager dans toute l'Europe sans aucun voyage, sans aucun transport. Donc on est parti de ce point de départ pour tenter cette expérience, qui sont des aventures qui modifient en profondeur nos pratiques. Et on cherche aussi, par exemple, on a lancé un séminaire qui s'appelle « Imaginaire des futurs possibles » où on réunissait 7 artistes, 7 chercheuses et chercheurs et qui, pendant une saison, avec plusieurs rendez-vous dans l'année, c'est comme un séminaire de réflexion sur partager des réflexions entre scientifiques et artistes. La première année, c'était piloté avec le philosophe Dominique Bourg, philosophe de l'écologie. La deuxième année, avec Vincent Després, philosophe du vivant, je dirais. Et la troisième année, avec Faustin Lignicula, qui était pour essayer de penser autrement, aussi avec le corps, parce qu'il est chorégraphe, mais aussi d'ailleurs, parce qu'il travaillait à Kisangani. Donc, tous ces projets ensemble font que la durabilité est au cœur du développement du théâtre de Vili.
On le sent quand vous parlez et puis quand on visite aujourd'hui le nouveau Vidi, ce nouveau théâtre qui ressemble assez finalement à l'ancien visuellement, mais qui est doté d'outils incroyables, notamment une salle de répétition. Vous l'avez dit, c'est un lieu de création, donc la salle de répétition est essentielle. Mais on sent bien que ce que vous voulez faire ici, c'est comme une agora, c'est-à-dire c'est un lieu où on pense et où les artistes sont au cœur du projet.
Voilà, ce lieu est fait pour les artistes. Donc on pense où sont les loges, les outils de travail, la salle de répétition. C'est un lieu où les artistes rencontrent aussi le public, où c'est un lieu de la rencontre. D'ailleurs, maintenant, sur le toit de Vidi, il y a une œuvre d'Augustin Rébété qui s'appelle « Les rencontres possibles ». Je crois qu'il résume bien ce que c'est qu'un théâtre. Avec ce foyer, avec cette terrasse au bord du lac, où tout le monde se retrouve, public, équipe du théâtre, artistes, et là où ça discute, ça réfléchit, il y a des débats, il y a des rencontres, il y a des expériences. Je crois que c'est vraiment très important d'être à la fois un théâtre un peu de référence sur le théâtre d'aujourd'hui, donc avec les artistes qui pourraient être un peu les marqueurs du théâtre contemporain.
Un lieu de représentation.
Donc avec des artistes comme Romeo Castellucci, comme Christophe Marthaler, comme Katy Mitchell, mais aussi où toute une nouvelle génération d'artistes viennent faire des expériences pour inventer le théâtre de demain. La proximité avec l'école de la manufacture est particulièrement riche, mais aussi des nouveaux visages, comme des artistes comme Simon Sen, qui vient interroger nos rapports aux technologies, par exemple, et qui profite de Vidi comme un lieu de travail et d'invention.
Merci beaucoup, Vincent Baudrier.
Et merci à vous, Marie Sorbier. Comme chaque lundi, nous partons pour l'étranger direction l'Inde ce soir. Alors peut-on être ouvertement homosexuel aujourd'hui en Inde? Comment ce pays, connu pour ses violences envers les femmes, évolue dans sa relation au genre et au sexe? Ce sont quelques-unes des questions posées lors du fameux festival de littérature de Jaipur qui vient de se terminer la semaine dernière et que notre correspondant a suivi pour nous. Sébastien Farcy, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Ce thème est d'abord abordé à la première personne par un réalisateur homosexuel qui vient d'écrire un livre de son expérience personnelle.
Oui, Onir est un réalisateur de films indépendants de Bombay, récompensé par de nombreux prix en Inde et à l'étranger, et il est en quelque sorte le seul professionnel à ce niveau à avoir révélé ouvertement son homosexualité. Son livre qu'il a présenté au festival de Jaipur s'inscrit dans cette même volonté d'affirmation. Il s'intitule « Je m'appelle Onir et je suis homosexuel ». L'auteur y relate sa vie depuis sa plus tendre enfance, la découverte de son homosexualité, ainsi que les combats autant personnels que professionnels pour vivre et faire accepter cette identité. Il nous explique dans une interview pourquoi il a tenu à ce titre.
Pendant toute ma jeunesse, je n'ai jamais entendu parler ouvertement de mon identité sexuelle. Et la société fait tout pour nous rendre invisibles. Donc j'ai considéré qu'il était important de clamer que c'était normal d'être homosexuel. Le titre « Je suis homosexuel » dépasse ma seule personne. Il est là pour célébrer cette identité et rassurer ceux qui ressentent la même chose. Et je sens que j'ai fait le bon choix, car je reçois aujourd'hui beaucoup de messages de personnes qui m'envoient des photos de mon livre depuis une librairie et me disent à quel point cela leur fait du bien d'avoir enfin une présence.
Mais est-ce que le monde du cinéma indien dans lequel ce réalisateur évolue, Sébastien, accepte facilement l'homosexualité ?
Oui, à condition que cela reste caché. Cette énorme industrie du film en hindi n'est ainsi qu'un reflet de la société indienne qui considère encore cette question comme taboue. Il faut se rappeler que jusqu'en 2018, les relations homosexuelles en Inde étaient considérées comme un crime passible d'une peine de prison et il a fallu un jugement de la Cour suprême pour invalider cet article de loi qui datait de l'époque coloniale. Cette dépénalisation n'a pas non plus fait émerger beaucoup de films sur le sujet de l'homosexualité, car comme Onir le raconte dans son livre, les producteurs n'osent pas prendre de risques avec un sujet aussi sensible. Deux de ses longs métrages sur le thème, My Brother Nikhil et I Am, qui ont été primés à l'étranger, ont eu tout le mal du monde d'ailleurs à être financés et distribués en Inde. Onir parle de cette relation ambiguë avec ce thème de l'homosexualité.
De manière superficielle, Bollywood semble être une industrie très tolérante et diverse, où personne n'a l'air de nous juger. Mais ensuite, vous réalisez qu'ils acceptent votre choix personnel, mais pas votre engagement, ni les histoires que vous voulez raconter. Pour moi, l'argument économique est une excuse, car derrière, il y a une importante homophobie qui empêche ces histoires de sortir. Aussi, l'essentiel des histoires sur les homosexuels sont aujourd'hui racontées par des non-homosexuels, ce qui montre que ces personnes cherchent également à contrôler le récit qui sort sur ce sujet.
Le festival de Jaipur s'est penché sur cette question du contrôle exercé par les hommes dominant la société indienne à travers une conversation menée avec une autrice.
Tout à fait. Amiya Srinivasan, une philosophe d'origine indienne, professeure spécialiste du féminisme à Oxford, a publié une série d'essais dans laquelle elle débat des relations de pouvoir autour du sexe et de la pornographie. Son livre est intitulé de manière provocante « The Right to Sex », le droit au sexe, un terme qui est utilisé sur les réseaux sociaux par un groupe dominant d'hommes, appelés les célibataires involontaires ou « incel » en anglais, dont Amiya Srinivasan dresse le portrait.
C'est une sorte de sous-culture d'Internet qui émerge parfois dans le monde réel. Cette communauté est peuplée de jeunes hommes qui se sentent lésés, car leur prétendu droit à avoir des relations sexuelles avec des jeunes femmes, blanches et belles, n'est pas satisfait ni reconnu. Et ils se présentent comme une classe politique désavantagée. Cela déborde parfois pour donner lieu à des actes très violents. Comme en 2014 en Californie. Et le premier essai parle justement de cet événement.
Puis ce sont des violences sexuelles qui existent bien sûr aussi en Inde.
Évidemment, et la discussion qui a eu lieu à Jaipur pendant une heure devant une salle comble a porté en partie là-dessus. Comment réduire cette violence faite aux femmes dans un pays connu pour son patriarcat et sa pratique très répandue du viol? L'Inde répond généralement par la répression et le durcissement des peines de prison pour ces violences, voire un recours facilité à la peine de mort depuis 10 ans. Mais ce que cette auteure féministe dit, c'est que cela peut être contre-productif. Amiya Srinivasan explique qu'au Brésil, par exemple, le durcissement des peines pour les violences domestiques a fait réduire le nombre de plaintes déposées par les femmes, car ces dernières réalisent que si elles se tournent vers la police en cas de violence, leur mari sera emprisonné et ne pourra plus rapporter de revenus au foyer. La vraie réponse féministe à ces problèmes, explique cette professeure, et de tout faire pour que ces femmes soient indépendantes financièrement en leur offrant une bonne éducation, de bonnes infrastructures et des revenus séparés. Cela offrirait un vrai pouvoir aux femmes et rétablirait un équilibre social propice à la baisse des violences qu'elles subissent.
À suivre, bien sûr. Et merci à vous, Sébastien Farcy, correspondant de France Culture en Inde. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France. Émission préparée avec Aïssa Toundoy, Boris Pinot, Anouk Minaudier, Lucille Comeau, Marie Sorbier et Apolline Limosino.